saine cause, du bien commun et d'un monde vivable. Émission présentée par André Dunis.
Bonjour, André Dunis, votre fidèle. Et aujourd'hui, je suis fort bien entouré, mais très très bien entouré, trop bien entouré. À ma gauche, Sandrine, à ma droite, Anne-Laure, les pétroleuses, on dirait ça de la commune de Paris, celles qui mettaient le feu aux habitations des Versaillais, on va dire les pétroleuses de la du sauvetage de la terre nourricière, vivrière, sauvage, etc. C'est-à-dire qu'elles ont une association qui s'appelle les penseuses de terre. Les penseurs de terre. Bon, alors, tout a commencé avec elle à Velane, où elle présentait le design, parce qu'on emploie les termes anglais et on fait du franglais au lieu de notre belle langue. Moi, je suis contre ce colonialisme impénitent de week-end, de design, etc. Enfin bref, le projet d'installation d'une zone autour d'une maison où il y a un peu de terrain pour faire un jardin durable, permanent, d'où le terme de permaculture, c'est-à-dire de l'agriculture permanente. Et alors cette soirée était fantastique, et donc depuis, je n'ai de cesse de les harceler pour qu'elles viennent parler à la radio. Alors il y a eu une fois où elles n'ont pas pu venir, et c'était une de leurs stagiaires à la ferme Bande, près de Saint-Christophe-les-Grottes. Alors justement, elles vont se présenter. Anne-Laure, donc c'est toi qui gères la ferme, ou comment ça marche?
Alors moi, je vis à la ferme de la Bande Passante à Saint-Christophe.
Alors c'est la Bande Passante à Saint-Christophe-les-Grottes.
Saint-Christophe-la-Grotte, un peu au-dessus, ouais, le hameau qui est juste au-dessus en allant vers le tunnel en direction de Chambéry.
Et c'est quoi cette ferme? Qu'est-ce qu'elle a de particulier?
Alors c'est une ferme vivrière sur laquelle il y a plusieurs collectifs qui sont succédés au fil de ces dernières années. Moi, ça fait 3 ans que j'y suis. Vivrière dans le sens de, on travaille sur notre autonomie. On travaille aussi beaucoup sur le faire et le vivre ensemble là-haut. Et alors c'est une ferme, il faut savoir, qui est isolée. Il faut marcher 15 minutes pour y accéder. Ce qui demande un engagement et puis une réflexion justement par rapport à nos consommations et à ce qu'on importe dans la ferme, qui est assez intéressante. Et voilà, on est plusieurs à vivre là-haut, à cultiver. On est quasiment autonome, notamment en légumes. Et on accueille aussi pas mal de monde sur la ferme pour vivre une expérience de vie dans la nature. Et c'est aussi en voie de se transformer en ferme agricole là à partir de cet hiver, avec l'installation d'un berger avec des moutons, et puis l'installation d'une pépinière d'arbres fruitiers et d'arbres pour la biodiversité, ainsi qu'un conservatoire qui sera lui porté par l'association des penseurs de terre.
Un conservatoire de quoi ?
Un conservatoire d'arbres fruitiers, principalement des races anciennes, des variétés anciennes, pardon, locales, mais pas que, parce que les climats changent, du coup on va aussi s'intéresser aux variétés qui viennent d'un peu plus au sud notamment, et qui ont été sélectionnées depuis des milliers d'années par...
Super, bon, voilà. D'accord. Eh bien écoute, voilà, le thème de l'émission, ça s'appelle « Sans la nature, pas de futur ». Vous, vous êtes dans le futur, avec la nature, dans un coin au moins où les bagnoles ne peuvent pas avoir accès en clair.
Non.
Donc il faut faire 15 minutes.
15 minutes de marche, il y a quasiment 2 km à pied, dans un chemin qui nous permet justement de nous reconnecter avec la nature à chaque passage. C'est un peu notre sas d'entrée, obligatoire pour tous. Ouais. Qui permet de vivre les saisons au fur et à mesure.
Vous vivez avec les saisons.
C'est ça.
Et vous chauffez avec le fioul.
Avec du bois, qu'on fait en partie nous-mêmes.
Non mais ça, c'était mon humour. Hein.
Ouais.
D'accord, faites votre propre bois, il y a un petit bois dans la ferme.
Ouais, il y a un peu de forêt. Et depuis peu, on travaille aussi en traction animale avec un cheval qui nous aide à tirer le bois de la forêt.
Ouais, dis donc, élever un animal comme un cheval, c'est une sacrée histoire ça.
Ouais, c'est tout récent, ouais. Justement, dans notre quête...
Qu'est-ce qui va passer l'hiver?
Ah bah, là-haut.
Avec, c'est un percheron,
C'est un trait ardennais.
Ah oui, d'accord. Ah bah ça supporte le froid. De toute façon, il fait plus froid, donc ça risque pas grand-chose. Super. Donc, vous organisez des stages, des rencontres.
Ouais, on accueille des groupes sur demande et puis on organise aussi parfois des formations via l'association des penseurs de terre. Par exemple, formation de permaculture, de création de jardins forêts, des formations sur les paysages fertiles, des balades aussi sur les plantes sauvages avec Sandrine. On organise aussi des chantiers d'éco-construction, de la grève sauvage sur le chemin d'accès à Bande. Voilà, tout un tas d'activités.
Et pas de miel?
Non, pas encore. On a quelques ruches horizontales et des ruches rondes pour accueillir des essaims, mais on n'a pas encore on n'a pas encore attrapé les essaims.
Et vous vivez à combien là-dessus? Vous dites quasiment autonome avec un jardin qui doit être immense quand même, non?
Bon, pas tant que ça. Non, parce qu'on se nourrit aussi beaucoup de plantes sauvages. On fait aussi du glanage et puis on produit par exemple du pesto d'ail des ours.
Que vous vendez?
En quantité, qu'on vend ou qu'on troque aussi.
Donc,
parce qu'on peut pas
un plat de pâte et le pesto et l'affaire est enveloppée.
Voilà, puis ça tombe bien en plus sur le Mont Beauvoir, il y a aussi une boulangère paysanne juste à côté, les céréales sont à côté. Voilà, donc
c'est elle qui vous fournit pour tout ce qui est de la farine, du blé, du pain et tout ça?
Bah, pas systématiquement, ça dépend. Il y a plusieurs paysans boulangers sur le territoire, mais en tout cas, c'est vrai que c'est une colline où on commence à avoir une autonomie dans la production qui est intéressante, ouais.
Et vous pouvez passer l'hiver à combien là-bas?
Alors tout dépend de la promiscuité dont on a envie à la ferme. Là, aujourd'hui, on est 8 sur la ferme, dont 4 enfants, et plus les personnes de passage. Donc on a régulièrement des personnes qui viennent en stage, ou tout simplement partager un moment de vie avec nous là-haut.
Eh bien, ça s'est vachement développé, hein, depuis la première fois où on en parlait. Ouais. Et alors, c'est quoi la philosophie de tout ça? Alors, j'ai à ma gauche... Ça n'a rien à voir avec gauche-droite. Hein. À ma gauche, et donc Sandrine. Elles sont toutes les deux à la tête de cette association Les Penseurs de Terre, que je vous recommande chaudement. En plus, elles font des formations à prix accessible, parfois à prix libre. Voilà. Ben, c'est quoi la philosophie de la permaculture, du coup?
C'est un vaste sujet.
Bah oui, bah oui.
C'est de recréer en fait un système le plus durable possible, où l'homme il est inclus dans ce système justement. On prend en compte ses besoins, ses ressources, et à partir de là, on essaye de construire un paysage, d'imaginer un lieu avec des différents éléments qui correspondent au projet de l'habitant. Et
Donc en clair, c'est le modèle de la ferme, ou ça peut être un modèle d'immeuble intégré, ou ça peut être un modèle d'agriculture?
Ça s'applique à
villageoise, ou ça peut être un
modèle... Ça s'applique à toutes les échelles, l'échelle individuelle au pays, au monde entier, même si on veut. Et ça s'applique aussi au domaine hors agricole, donc à la finance, au transport, tout ce qui régit la vie sociale... des humains.
D'accord. La vie sociale des humains qui soit soutenable par la nature, c'est ça?
C'est-à-dire,
c'est pas les transports tels que la globalisation capitaliste marchande planétaire le fait. Hein. Première émission que j'ai faite là sur ce qu'on appelle la mondialisation. Hein, vous avez 15 000 porte-containers géants de plus d'1,5 million de tonnes qui consomment 60 tonnes à l'heure de mazout qui pollue jusqu'à 500 km, un seul polluant plus que 50 millions de bagnoles. Mmh. Donc si on multiplie par 15 000, vous voyez la pollution. Donc ça finance transport et vie sociale des hommes, mais... En clair,
aussi. Mm-hmm. L'économie aussi peut avoir une approche permaculturelle.
Qu'est-ce qui peut avoir une approche permaculturelle?
L'économie aussi, en fait. L'ensemble de nos systèmes peuvent être approchés avec...
Alors, comment voyez... Alors, voilà, moi, comme je suis un peu sensibilisé à l'économie, puisque j'avais... Comment tu vois, Sandrine, alors, une économie permaculturelienne ou compatible avec la nature que vous voulez mettre en... que vous voulez restaurer?
Bah, ça peut être par exemple du troc, comme on le fait sur le pesto ou sur les formations aussi. Ça peut être aussi tout simplement à la base déjà de consommer que ce qu'on a réellement besoin, de pas forcément garder ce qu'on n'utilise plus. Donc ça peut être aussi des échanges de biens. Ça fait partie des échanges économiques.
Mais pour échanger des biens, il faut les produire. Donc je comprends très bien que facile du troc parce que vous produisez. Mm-hmm. Mais pour échanger des biens, il faut bien qu'il y ait de la production. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on produit? Comment on le produit? Par exemple, par quoi on remplace pour se chauffer l'hiver le pétrole? Donc là, tu as dit pour la ferme que vous vous contentiez de poêle à bois, je suppose, à double combustion, parce que le bois, c'est très polluant. Comment on fait pour, en quelque sorte, assurer à, on va prendre les Français, 67 millions et demi, comment on fait pour assurer que, ils bousillent pas la nature avec...
Mais il y a plusieurs...
Avec l'énergie, quoi. Vous savez bien que le pétrole, c'est...
Commencer par relocaliser les productions et s'alimenter local, c'est déjà la première des étapes.
Mm-hmm. Donc là, vous êtes dans la production alimentaire, quoi. On fait tout local. Bon, ça, je suis d'accord, mais on ne peut pas le faire seulement par l'initiative privée. C'est là qu'on va politiser le débat, mais sans trop politiser.
Et c'est chouette parce qu'il y a plein de maraîchers qui s'installent tous les jours en France, des belles démarches agricoles.
Oui, mais en même temps, la déprise des terres agricoles en France accélère. En même temps que beaucoup de jeunes veulent s'installer comme maraîchers, mais c'est vrai.
L'accès aux terres est
un... Je ne dis pas les chiffres, mais problème, un département français qui disparaît tous les 6 ans. Avant, c'était tous les 7 ans. Ça s'est un peu ralenti. Donc, on va bientôt avoir 15% de la surface de la planète, de notre pays qui va être artificialisée. Donc, je prends l'exemple de la Drôme que je connais bien. C'est le pays où il y a le plus de pertes de terres agricoles et le plus de jeunes maraîchers qui s'installent. Et aussi le plus de jeunes qui n'arrivent pas à vivre du maraîchage.
Dans la Drôme?
Ah bah oui, dans la vallée de la Drôme, j'en ai connu 3, j'ai des émissions à Radio Saint-Ferréol, j'en ai connu 3, celui qui gagnait le moins c'était 400 euros par mois étalé sur 12 mois, il gagnait plus l'été et rien du tout l'hiver, ou presque rien, et 400 euros par mois, bon d'accord, il bouffe ses légumes, peut-être qu'il a 2-3 poules, et celui qui gagnait le plus, il gagnait 800 euros par mois. C'est pas le cas ici, ici il y a des maraîchers bio qui font un peu de la production, on va dire, semi-industrielle, quoi. C'est-à-dire...
Sans aller dans le semi-industriel, je pense qu'un maraîcher peut vachement mieux s'en sortir. Après, tout dépend de là où il commercialise. Et puis, 400 euros par mois, selon la manière dont on vit, ça peut déjà être une richesse suffisante pour vivre confortablement aussi.
Sans voiture, à ce moment-là.
Tout dépend du mode de vie.
Avec une voiture collective.
Ah, voilà.
Maison commune.
À la relocalisation, on va essayer de discuter des... Moi, je me bats beaucoup pour qu'on prenne le pouvoir au niveau communal. C'est-à-dire qu'on s'insère. Alors, vous, je vais vous poser la question. Est-ce que vous êtes inséré dans la vie de Saint-Christophe ou pas Saint-Christophe ou de la Comcom de Chartreuse? En Chartreuse, j'ai fait plusieurs émissions avec le parc et avec Madame Bianassi, qui était la mairesse de Saint-Pierre-d'Entremont et qui est co-responsable d'un groupement foncier agricole. Mmh. Eux, leur bagarre ici, qui n'est pas du tout le cas dans l'avant-pays savoyard, désolé, pas du tout les mêmes élus, ici, il y en a quand même quelques-uns qui ont souci d'empêcher que les terres agricoles soient bousillées. Mmh. Du moins, attention, elle a pris un arrêté anti-pesticides. Déjà, pour vous, c'est vital. Mmh. Et du coup, ils ont créé un groupement foncier agricole de Chartreuse, coopératif, en vue d'installer... Alors, est-ce que vous pensez pas, c'est une question politique à deux balles, que l'action publique des collectivités territoriales, dans lesquelles vous pourriez éventuellement vous associer ou pas, ou en tout cas, ne pourrait pas faire passer la permaculture du stade de l'expérimentation sur des petites surfaces, quelques hectares par-ci, par-là, en mode de production, je dis bien en mode de production, qui soit en quelque sorte adoubé par la puissance publique locale. La puissance publique locale, c'est une salle des fêtes, c'est une tractopelle, c'est du pognon qui a servi à faire des ronds-points. Hein. Des ronds-points, il y en a 50 000 en France, entre 400 000 et 1 800 000 euros. Le dernier à Valence que j'ai connu, c'était 1 800 000 euros à Guy Rengrange. C'est-à-dire que toutes ces conneries d'argent public ont été dépensées à des bêtises. 1 800 000 euros, c'est quasiment une MJC géante. Bon, on peut se dire qu'une MJC se bagarre pour la permaculture, hein, pas toujours, hein, c'est du fonctionnariat d'éducation dite populaire. Mais, je repose ma question, est-ce qu'on pourrait pas, pour moi, la permaculture c'est l'horizon indépassable, hein, si on veut un futur, eh bien il faut la nature, et si on veut la nature, il faut la permaculture, c'est-à-dire, mais vous allez l'expliquer un peu plus, un système qui soit réellement soutenable, permanent, respectueux des mécanismes écologiques qui permettent à la vie de se développer, en tout cas de se maintenir avec le réchauffement climatique. Est-ce que, première question, puisque j'ai quand même fait pas mal d'émissions là-dessus, le fait de vous associer avec des gens qui ici en Chartreuse font tout avec le parc pour stocker de la terre agricole, essayer de qu'elle ne parte pas en lotissement, ou essayer qu'elle ne parte pas dans des spéculations, ou des bobos qui mettent 4 chevaux et puis qu'ils piquent 20 hectares, afin d'installer de plus en plus, effectivement, de maraîchers, voire de régies publiques alimentaires. Mon gros truc, à moi, depuis 10 ans, c'est que les communes achètent et elles payent des maraîchers qui vont faire un maraîchage. Et c'est là que se pose la question de la permaculture. Est-ce qu'on va faire des serres avec 20 tonnes de flotte par jour pour 3-4 serres comme je connais, avec du plastique partout, avec une rangée de carottes qui fait 2 km de long, ou est-ce qu'on va faire en permaculture? Voilà. C'est la question, je pense que ça serait un rôle très important de vous sortir des petits cercles underground pour qu'on aille vers...
Ça se fait déjà, ça émerge un petit peu avec le mouvement des villes en transition, par exemple. Il y a certains maires qui commencent à prendre les choses en main à leur échelle dans leur commune et ça commence gentiment à se réveiller à ce niveau-là. Après, il y a...
Tu parles par exemple du film sur Ungersheim que j'ai passé à Pombeau-Vasin, en parenthèse, non? Tu vois pas ce film?
Non, pas spécialement.
Ungersheim, il se réclame de la permaculture, il y a un paysan boulanger bio, des gens en insertion et le maire qui a racheté des terrains et qui nourrissent directement les enfants à la cantine.
D'accord, bah voilà.
Moi, mon modèle, c'était moi en Sartou, c'est-à-dire 6, 7, 8 hectares, 3, 4, 5 écoles primaires, 2 collèges, 1 lycée, entièrement 100% nourri depuis 10 ans avec les légumes c'est des sortes de serres, c'est pas des fermes, hein, c'est des sortes de serres qu'ils ont installées là où ils devaient faire des lotissements. Il a reconverti le maire en... C'est pas forcément démocratique, hein. Il a pris la décision et du coup, il fabrique des légumes. Et le film que j'ai passé, que j'ai, hein, je peux vous montrer, c'est un film qui montre que, ben voilà, ils font des techniques, c'est enherbé, c'est pas du plastique, c'est assez joli, c'est des petites serres, c'est pas des serres géantes. Mm-hmm. Voilà. Est-ce que ce serait pas le moment de faire un peu plus de battage pour que cette production agricole périphérique aux villes, aux cités, aux bourgades, aux villages, passe en permaculture plutôt que ce que je vois? Alors je vais désigner personne, hein. que je vois, moi, c'est des serres bio, de jeunes maraîchers bio, avec des tapis de plastique sur 400 mètres de long, des serres géantes sur 400 mètres de long, des rangées de poireaux, des rangées de courgettes, des rangées de... voilà. Un arrosage en haut, en bas, intensif. Hein, chaque serre a un minimum de 4-5 tonnes d'eau par jour. Des blettes qui font 15 cm de large, qui font 1 mètre de haut. Dans la poêle, ça... Et c'est cher à l'achat, finalement. C'est pas ça qui va vraiment nourrir le peuple, si. Voilà, c'était juste ma provocation pour...
Bah, c'est
ça que je vois dans les serres.
C'est sûr qu'il y a d'autres techniques.
Alors,
voilà, les maraîchers aussi commencent à apprivoiser une autre façon de faire, mais c'est sûr que bah, c'est des changements qui s'opèrent sur plusieurs années. Ça, évidemment que ça ne peut pas changer d'un coup d'un seul. Après, c'est évident que pour nous, c'est souhaitable qu'on minimise les besoins de plastique, tout ça. On a d'autres solutions qu'on prône aujourd'hui, mais...
Mais ça fait partie des techniques culturelles simplifiées qui sont pas mal utilisées, c'est vrai, le plastique. Ça permet aussi d'économiser tout un tas d'intrants et d'autres... quand il faut transporter du paillis, du broyat, etc., il y a aussi du pétrole qui est utilisé, mine de rien. Et ils utilisent de plus en plus de toiles tissées qui ont une durée de vie entre 10 et 20 ans. Et qui, mine de rien, leur permettent justement de...
Tu parles pas du plastique faire... classique, là, tu parles de toiles tissées.
Je te parle des toiles tissées,
En quoi,
c'est...
Il y a bien du nylon qui tient la...
Oui, il y a bien du plastique dedans quand même, mais c'est... Il y a parfois, dans certains cas, la technologie et le plastique, malheureusement, peuvent être justifiables quand ça permet...
D'économiser des camions de broyat.
Et éventuellement, si on n'a pas la ressource sur place. Après, moi, la ressource que j'ai, à la maison, c'est que je plante un maximum de trognes et de plantes qui vont produire de la biomasse pour avoir mon broyat sur place. Mais quand on est à une échelle économique de maraîchage et qu'il faut assurer un marché derrière et un système de... Ça demande d'avoir un système de production, mine de rien, qui est performant. Il y a parfois des compromis à faire. Alors, pas forcément le plastique, mais
oui, mais comment on peut déplacer ces compromis vers la permaculture? C'est ça, la permaculture est un idéal.
Certains permaculteurs utilisent cette ressource-là pour parvenir à leur fin. En fait, quand on parle permaculture, on ne parle pas de technique. Ça, chacun choisit sa technique, ce qu'on...
Il faut que les techniques soient quand même compatibles avec
la vie
biologique du sol,
évidemment,
avec la vie,
évidemment.
Les interactions.
Et les plastiques sont pas inintéressants en termes de vie biologique du sol. Justement, ces toiles tissées en particulier, puisqu'elles laissent passer l'eau, sont loin d'être inintéressants et de tuer la vie du sol. Par contre, ils facilitent drôlement le travail du maraîcher.
Ah bah oui, parce que s'il faut désherber manuellement...
Voilà, disons qu'on... En tout cas, c'est vrai que ça demande un chemin qui est progressif de se passer de toutes ces choses-là. On pourrait aussi se contenter de manger des légumes sauvages, comme le fait Sandrine, et ne plus cultiver de légumes et que plus personne mange de légumes.
Tu ne fais plus de légumes.
Ou que chacun ait son potager.
Mais j'en fais très peu et ce que je fais, c'est essentiellement pour la semence.
D'accord.
Voilà. Donc voilà,
c'est un chemin,
où on passe d'un compromis dégueulasse à un meilleur compromis vers un idéal, progressivement.
C'est sûr, et selon chacun, on a deux petites serres qu'on a bidouillées avec le bois de la forêt et puis on a du plastique sur les serres parce qu'on veut manger quelques tomates et qu'on veut avoir des légumes
à 700 mètres de haut.
700 mètres de haut, entre 700 et 800 mètres.
Donc sans serre
Mine de rien, on pourrait se nourrir autrement aussi. Mais on a fait ce choix-là, c'est sûr.
Avec un cinquième moutard et son troisième divorce. Il a même pas 35 ans, c'est dire si l'espoir est grand. Mais les femmes sont un poison pire que la clope.
la boisson. Parfois, il en vient à se demander si ça serait pas mieux d'être aidé. Gilbert et Fleur Bleue, d'une manière consternante, tombe amoureux plus souvent qu'une adolescente. Il suffit d'un sourire pour que son cœur chavire, et une belle paire de seins pour que le mariage ne soit pas loin.
Donc, vous entendez qu'on peut peut-être aller un peu plus loin que de ce... Voilà, technique simplifiée, c'est mettre du plastique. Alors, on peut le remplacer par des toiles tissées avec une structure en nylon.
C'est des plastiques qui vont être plus durables.
Ouais. Et on ne peut pas vraiment...
On peut aussi utiliser de la toile de chanvre, mais qui a un coût exorbitant. Puis finalement, le bilan énergétique est-il vraiment plus intéressant?
Ça sera vite détruit par l'humidité.
2 ans maximum en terre, ouais, c'est sûr.
Et l'idée de faire beaucoup de plantes qui tuent les mauvaises herbes.
Mais les engrais verts,
justement. Il n'y a pas de mauvaises herbes, pardon. Mais ouais. Qui tuent un peu la prolifération de...
Les engrais verts, c'est aussi maintenant une des manières de faire avec la nature et d'utiliser les ressources biologiques. Ça, c'est deux principes de permaculture. Mmh. Et justement, c'est assez intéressant, ouais.
Par exemple, est-ce qu'on peut faire une rangée de blettes et pour en empêcher tout simplement l'herbe classique d'envahir les blettes, est-ce qu'on ne peut pas semer quelque chose qui va étouffer ces herbes classiques tout en étant bénéfique pour la blette? Par exemple, je ne sais pas, moi j'ai fait cette année, ben, ce que font les Incas,
c'est pas bien malin. L'idéal, c'est de densifier.
Haricots, courges, maïs. Et maïs.
La milpa mexicaine, ouais. Mmh. Ouais, bah c'est réfléchir pour occuper l'espace au maximum, pour éviter que les herbes qu'on ne souhaite pas avoir...
On peut faire ça dans une serre, non ?
On peut.
Oui, mais ça demande beaucoup plus de travail, ça fait des légumes plus chers, c'est ça ?
C'est une autre gestion mise en place. Ça s'adapte pas à tous les légumes. Par exemple, la carotte, qui met énormément de temps à germer et à pousser, a besoin d'être désherbée, elle a besoin de la place toute seule. Si on commence à lui mettre des courges, etc. autour, la carotte va être complètement étouffée.
J'ai laissé pousser autour des carottes, et après, il y a 3-4 survivants, ça c'est sûr. Elle se défend, mais pas tant si bien que ça, ouais.
Mais en tout cas, voilà, il y a plein de techniques utilisables. La permaculture, on utilise en gros un panel tout à fait large. On la limite souvent à la culture sur but, mais en tout cas, à l'échelle du potager, chacun applique les stratégies qui lui semblent les
plus... Oui, moi j'ai eu l'occasion d'avoir 4 tonnes de broyat, donc j'ai mis beaucoup de broyat pour mes tomates. J'ai de très belles tomates, tout le monde me félicite. Voilà, j'ai une pompe à eau. Je mets quand même une fois par semaine de l'eau, alors que Pascal Pote, lui, attend que le ciel tombe sur ses tomates. Voilà, mais j'ai des très belles tomates, ça c'est vrai. Pas trop grosses non plus, ça veut dire que j'arrose pas trop non plus. Parce que plus on arrose, plus on a des monstres. Tout en étant des tomates traditionnelles comme la tomate ananas ou l'Orenbourg, la géante, etc. Ouais, mais ça demande trop de main-d'œuvre de faire ça, quoi, de faire avec de la toile tissée nylon. Parce que là, je vois, quand on monte une serre, il y a 12 personnes, ils te montent la serre en une demi-journée, avec les camions, les trucs, tac, là, là, on met tout de suite les toiles, tac, on plante dans les interstices, on arrose, c'est parti, il n'y a rien qui se perd. Rien qui se perd, sauf des tonnes et des tonnes de courgettes trop grosses pour être vendues.
C'est vrai. Ça arrive. Après, voilà, ça peut aussi servir de compost au sol qui a fait pousser ses courgettes et qui va les récupérer en les redigérant et en réintégrant.
Ils n'ont pas le temps de faire les éléments au sol, les maraîchers.
Ça dépend.
Je leur ai posé la question. Pas le temps.
Mais après,
parce
ouais,
que tu peux pas mettre une courgette en tas, dire que tu fais du compost.
Les systèmes les plus aboutis et qui permettent un maximum de synergie à échelle commerciale, parce que quand on est tout seul, à échelle familiale, on arrive à avoir d'un côté les poules, le compost, etc. Mais à échelle commerciale pour nourrir les gens, l'idéal, enfin moi je pense que le système il implique d'être plusieurs. Tout seul, c'est
de vivre
sûr
dans une ferme collective comme la bande.
Alors, vivre dans une ferme
bande,
collective, pas forcément, mais cultiver ensemble, ou
cultiver
en tout
ensemble.
Cas créer des synergies entre différents paysans pour que les déchets des uns soient utilisables par la ressource des autres. Et mutualiser des outils, mutualiser des ressources.
Est-ce que la permaculture, alors ça va faire une question... Là, on est bien d'accord. Hein. Par exemple, les maraîchers, on avait fait une émission, ils ont décidé, au lieu d'importer des sacs de Hollande...
Des sacs de...
Ben oui, parce que dans les émissions qu'on a faites là, j'avais fait un petit article, c'est qu'en gros, un hectare, quand on le fait en bio, si on veut du bon bio, c'est en gros 12-14 tonnes de nutriments bouffés chaque année par l'hectare en question, c'est-à-dire par les plantes qui se nourrissent sur cet hectare. D'accord ?
Ouais.
Pour le chiffre, à peu près, 8 à 12 tonnes.
Donc
il faut qu'on retrouve 8 à 12 tonnes de carbone, de phosphore, d'azote et compagnie, c'est-à-dire de nutriments dans le sol. Soit c'est le sol qui va autoproduire avec les engrais verts, mais ça suffira certainement pas. Soit il faut amener autre chose, notamment des fumiers.
Ouais.
Dans les fumiers bien pailleux, il y a du carbone dans la paille.
Ou faire paître les animaux sur le système directement.
Ou alors faire paître les animaux, faire l'assolement, hein, les animaux paissent sur le truc. Ouais, mais ils en amènent pas assez, enfin un peu.
Ah,
donc
si,
la
si,
question c'est, est-ce qu'on fait alors, comme tu dis, des échanges de services, donc ceux que je connais, là, notamment la MAP du Lac qui a été interviewée ici, ils ont quand même changé, ils n'achètent plus en Hollande ou ailleurs des camions qui amènent des terreaux pour remplacer les 12-14 tonnes à l'hectare qui sont mangées par les plantes des légumes. Mais ils ont fait avec un paysan du coin qui est bien sympathique d'ailleurs et qui n'est pas très chaud avec l'extension de la baronnie parce que c'est sur ses propres terres. Enfin, lui, il est locataire, mais quand même, ça va le virer de ses 4 hectares. Donc, c'est son fumier. Le problème, c'est que 85% des maraîchers utilisent des fumiers pas bio. Et c'est un sacré problème pour moi. Je ne parle pas en tant que consommateur, mais en tant que militant. Qu'est-ce qu'il y a dans ces fumiers? Les antibiotiques pour que les paquets de vaches, quand on a 200 ou 300,
les hormones.
Bon, ben, elles ne crèvent pas. Il y a les tourteaux de soja OGM, la France en importe 6 millions de tonnes par an. Tourteaux de soja OGM d'Argentine ou d'Amazonie, voilà, qui a brûlé l'Amazonie. Sans parler de ça, c'est que c'est plein de Roundup. Donc la vache, elle pisse du Roundup, elle pisse des antibiotiques, des métaux lourds, les fumées des bagnoles qui passent pas loin des champs, puisqu'il y a une route
bon, alors, heureusement,
tous les 500 mètres.
Tous les éleveurs ne travaillent pas comme ça.
Ouais. Bah après, bon, pour moi, ça met juste en perspective, en fait, justement un petit peu le thème de l'émission, c'est que
sans la nature, pas de futur.
C'est qu'en fait, ça montre qu'il y a une déconnexion entre le consommateur et le lieu de production. Parce qu'à petite échelle, bien souvent dans les fermes vivrières, on a ce qu'on appelle les toilettes sèches, qui peuvent être recompostées et réintégrées justement au système. Donc on est dans un cycle et un
vertueux,
cycle.
Oui.
Voilà. Et là, bah, ça montre qu'il y a une déconnexion entre celui qui mange et celui qui fait pousser et le lieu en fait. Tout ça. Après, effectivement, ça serait peut-être un petit peu compliqué aujourd'hui de.
Bah, Sandrine, qu'est-ce que tu veux? Écoute, tu vas à Pont au voisin, tu vas dans les grandes surfaces de fruits et légumes, ou tu vas même à Super U. Qu'est-ce que tu vois? Dans les grandes surfaces fruits et légumes, il y en a deux. J'y suis allé. Tu trouves du brugnon, pas du brugnon, du poivron à 1,05€ le kilo. Tu vas en face à la Vie Claire, ou c'est pareil, les mêmes prix à Satori, ou c'est encore pire à Biocoop. Parenthèse, Biocoop, c'est loin d'être social. Grève dans plein de Biocoop parce que les salariés sont traités. D'accord, ils gagnent un peu plus que le SMIC, mais ils ont une pression énorme dans le travail. Donc ils sont pas contents du tout, et à Biocoop les prix c'est même supérieur à Satori, qui est un truc privé, alors que Biocoop c'était soi-disant une coopérative. Pas une coopérative du tout, c'est le capitalisme vert. Ça craint. Donc je vais faire une émission avec Biocoop, mais donc il ne s'agit pas de dire n'importe quoi, il faut le faire, il faut le dire, mais c'est hallucinant. Biocoop Chambéry, c'est les mêmes prix qu'à la Vie Claire Pont-de-Boisin, c'est les mêmes prix qu'à Satori Chambéry, c'est hallucinant. Je répète, c'est 8 kilos les tomates anciennes en pleine production en juillet-août. Ça craint. Moi, j'ai une obsession, c'est que les milieux populaires cessent d'être obèses, que les enfants des milieux populaires cessent d'avoir des maladies.
Des tomates.
Hein? Quoi, qu'ils mangent des tomates? Hein?
Non.
Qu'est-ce que tu disais? Si, ça intéresse.
Non, non, tu parles de tomates et d'obésité. J'ai pas
eh ben, lien, mais... Mon obsession, c'est que les enfants des milieux populaires cessent d'être obèses à 40% en France, les enfants, hein, des milieux populaires, les plus pauvres. Ils peuvent pas bouffer des tomates à 8€ le kilo en pleine production. Donc, ces grandes surfaces, elles amènent des tomates, tu peux aller voir, hein. Même des tomates noires.
Et par contre,
à 2,09€ le kilo.
Et à côté, les producteurs, tu disais, les maraîchers gagnent entre 400 et 800 euros.
Ça, c'était dans la vallée de la Drôme. Ici, c'est beaucoup plus. Hein. C'est beaucoup plus ici. Ils s'arrangent pour avoir au moins le SMIC. Mais pour avoir le SMIC, il faut une intensité de la production.
C'est moins 60 heures de travail par semaine, à peu près pendant les périodes de production. Ouais.
Oui. Et puis voilà, donc.
Ça m'amène aussi au fait qu'il y a une grosse déconnexion entre le coût, enfin entre le prix qu'on pense que devrait avoir
un légume,
un produit, et ce qui coûte réellement. Un légume ou autre chose, hein.
Oui.
Alors, est-ce qu'on, tu parles de baisser le prix au détriment des producteurs ou de payer réellement le coût de l'ensemble de l'alimentation et de les faire l'impasse sur les smartphones.
Les deux, mon capitaine. Moi, je baisse les prix. Tu sais comment ? 1,82€ le prix matière d'un repas 100% bio depuis 10 ans à la cantine de Moinsartou. Pourquoi ? Parce que le matin, le maraîcher dit « Oula, j'ai beaucoup d'aubergines. Gratin d'aubergines à midi. » C'est à quelques kilomètres, hein, puisqu'il y a la légumerie. Et puis, il y a une étuverie. Même, ils font des concerts pour l'hiver, c'est municipal. C'est une sorte de communisme municipal, au sens noble, hein, du mot communisme. Hein. On ne parle pas des États soviétiques qui étaient du capitalisme d'État et en plus des prisons à ciel ouvert. Je te parle d'une mise en commun des moyens dans une commune où la commune est propriétaire, donc c'est une propriété collective. C'est pas une propriété commune. Parce qu'une propriété commune, je dirais que c'est les habitants qui doivent gérer. Là, c'est quand même... l'oligarchie locale qui gère. Hein. Mmh. Un bien commun, c'est quand c'est à nous, comme le lac. Là, on a 1,82€ le prix matière. Donc, on a des prix énormément baissés si c'est les collectivités locales qui organisent la production ou si les collectivités locales mettent à disposition des terrains. Mmh. Ou elles rachètent les terrains, ou elles sauvent les terrains. Et on a des prix, bon, moi je suis d'accord, qu'il faut des prix relativement élevés pour faire vivre les maraîchers. Il n'est pas normal qu'un maraîcher ait 400€ par mois, il faut au minimum qu'il ait le SMIC, ça me paraît évident pour pouvoir vivre. Vivre, ça veut dire quand tu as marié, que tu as deux gamins au collège, ou un au lycée, un au collège, ou qu'en plus, il devient étudiant. Alors là, tu t'es obligé de douiller avec 400€ par mois, tu vis très bien en célibataire dans une ferme isolée, mais est-ce que tu peux élever un gamin et l'emmener à la fac ? Avec 400€, je n'en suis pas sûr. Si la loge chez toi, parfait, mais Band of Band et la fac de Lyon ou celle de Grenoble, ce n'est pas la porte à côté. En plus, il va gueuler qu'il va aller au cinéma à 11€ la soirée. C'est un gamin qui est étudiant, tu vas sentir ta douleur.
La scène cause. Du bien commun est un monde vivable. Émission présentée par André Dunis.